Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% foot, le dernier de la saison 2024-2025. Voilà, c'est déjà la fin d'une belle et grande saison pour notre émission. Voilà, on se retrouve comme chaque semaine en compagnie de Franck et Patrick. Bonjour Franck, bonjour Patrick.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine?
Effectivement, on pourrait en passer de plus mauvaise. Je suis assez satisfait de celle-ci.
Voilà, oui. En général, voilà. Suivant le samedi ou le dimanche, on passe une bonne semaine.
Voilà, ben, voilà. On prend un peu le pouls et la température au niveau de l'humeur de chacun. Voilà, c'est déjà le dernier rendez-vous de cette saison. Le rideau se tire sur tous les championnats. Voilà, aujourd'hui, on va évoquer, donc, pas de national. Malheureusement, on aurait bien aimé encore parler du FC Martigues, mais on ne verra pas le FC Martigues en barrage, comme on aurait l'espéré, pour essayer de sauver sa peau en Ligue 2. Voilà, après une petite saison. Mais on va parler de national, de D2 féminine et de Ligue 1. Voilà, avec la 34e et dernière journée en national ainsi qu'en Ligue 1. Et le dernier match aussi de la D2 féminine pour les filles de l'Olympique de Marseille. Couronnée à l'issue de...
Pour les consacrer, véritablement, elle le mérite une fois de plus.
Voilà, on va démarrer avec le national, une fois n'est pas coutume, avec la 34e et dernière journée. Et pour les joueurs d'Aubagne, ça a été une défaite pour ce dernier rendez-vous à la maison au stade de Lattre face à Valenciennes qui était 9e. Voilà, donc,
Oui, qui les a défaits 3-0, mais en fait, peu importe. C'était une fête assez... fort joli, avec un très très beau tifo au stade de Lattre. C'était pour fêter la saison d'Aubagne. Les joueurs n'ont pas été à la hauteur de leur niveau, de leur ambiance. Ils étaient déjà en vacances, vu que cette saison finalement s'achève finalement sur une bonne note, malgré cette défaite.
Voilà, une 6e place avec 45 points pour les joueurs aubagnais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison, cette première année dans ce championnat de national? Je pense que le travail était plutôt bien fait, bien réalisé. Je veux dire, c'est vraiment obtenir une telle place à la fin de la saison, c'est presque inespéré pour les joueurs aubagnais.
Ah oui, après cette accession cette année, il était évident que très peu d'équipes auraient pu faire aussi bien qu'Aubagne. Ils se sont donné les moyens de réussir ce maintien. Évidemment que lutter pour une accession était quand même assez complexe, du temps pour le staff et pour le club en général. En tout cas, ils se sont comportés de la meilleure des manières possibles. Et on espère de tout cœur les retrouver, forcément avec Martigues l'année prochaine. Nos équipes provençales vont se retrouver en national. Et de voir du spectacle et une accession d'une des deux équipes, voire des deux, la saison prochaine.
Voilà, alors dire quand même une chose, ils montaient de 4e division, de
le National 2.
Voilà. Et en général, quand tu montes, tu as une dynamique quand ça se passe bien au départ. Et on dit en règle générale que le plus dur, c'est la deuxième année. Donc, parce que c'est vrai qu'ils avaient un effectif très inexpérimenté. Et que les mecs ont fait le boulot, ils se sont hissés au niveau, ils ont été en sur-régime par moment. Maintenant, il va falloir confirmer, stabiliser. C'est souvent un peu plus difficile, mais parce que Aubagne n'a pas un budget considérable.
Oui,
là, on voit les deux qui montent, c'est les Nancy-Le Mans, les deux plus gros budgets. C'est comme en Ligue 2, les deux plus gros budgets, Lorient-Paris FC, sont promus en Ligue 1. Et donc, ça va être une seconde année compliquée pour Aubagne.
C'est l'année 2 qui va vraiment déterminer la suite.
Il y a un bon groupe, un entraîneur sérieux et bosseur. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par contre, ça sera comme très souvent. Il faut bien partir parce que si d'entrée, tu es en difficulté, ça peut être compliqué.
Et ne pas perdre d'autres joueurs, étoffer ce groupe si cela est possible. Bon, il y a évidemment le départ que nous connaissons de leur meilleur joueur qui a été le meilleur joueur.
Qui va rejoindre la Ligue 1 et le FC Nantes.
Oui, qui a été le meilleur joueur de National cette année avec Aubagne. en espérant qu'il n'y ait pas d'autres évictions et ou déflexions l'année prochaine et des joueurs qui vont pouvoir renforcer cet effectif qui a une très bonne base et espérons de tout cœur qu'il puisse continuer.
C'est vrai que Benatab, en lui souhaitant de réussir à Nantes, c'est du boulot, s'imposer en Ligue 1, c'est compliqué. Mais c'est un joueur qui était talentueux. D'ailleurs, comme tu disais, Franck, il a été meilleur joueur de National. Hein. Il a été élu. Et qui focalisait toujours un ou deux défenseurs et qui faisait peur et qui te créait des situations. Son absence va être compliquée à remplacer.
Absolument. Bon, il va falloir qu'il se mette au professionnalisme, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour Benatab. En tout cas, on lui a ouvert la porte. Le FC Nantes, j'espère qu'il va tout faire pour trouver et non pas tomber dans les travers qu'il a pu avoir quelquefois avec le FC Aubagne. Il a été repris par le staff technique qui l'a remis sur les bons pieds en lui faisant comprendre que le football, ce n'était pas qu'un amusement.
Oui.
Le plus dur arrive pour nos amis aubagnais, donc on verra cette année 2 dans ce championnat de national, voilà, et on suivra donc les aventures d'Aubagne en compagnie du FC Martil, voilà, nos deux équipes provençales qui évolueront l'an prochain dans ce championnat.
Nous les suivrons avec assiduité, comme ça a été le cas cette année.
Voilà, on sera à leur côté et on leur souhaite le meilleur pour cette saison 2025-2026. Voilà, on va enchaîner avec la D2 féminine et l'OM qui jouait son dernier match à la maison au campus ce dimanche après-midi. Et pour les joueurs de Frédéric Goncalves, ça a été une victoire 3-1 avec des scènes de liesse et de joie pour les joueuses qui ont été fêtées dignement samedi soir pour leur accession dans parmi l'élite, dans cette Arkema Première Ligue, comme on l'appelle maintenant, le championnat féminin de l'élite. Voilà, et donc ça a été une victoire 3-1 face à cette équipe toulousaine qui occupait la troisième place de cette D2 féminine.
Et il faut évidemment souligner le fait majeur qui est le sacre justement de cette équipe, car il fallait bien une championne dans cette D2 féminine, et en l'occurrence il s'agit de l'OM qui était toujours coude à coude avec Lens, qui était exempt sur ce dernier match, et effectivement ils finissent au même nombre de points, c'est-à-dire 49, et par rapport à un goal average, je dirais différentiel, il se trouve que l'Olympique de Marseille remporte la première place et en même temps est sacré championne de France 2D2, enfin un titre.
Ouais. Ouais, cette équipe de l'OM qui est restée sur 5 succès consécutifs sur ces derniers.
Et 8 victoires sans défaite. Pardon, pour moi, le lapsus aux 8 matchs sans défaite.
Ouais. Ouais. Par contre, pour être abonné à Canal+, c'est donc où la Ligue 1 Arkema féminine
l'Arkema Première
est diffusée.
Ligue,
ouais. Et pour avoir vu. Alors, Gérald, tu vois les gros matchs à Canal, tu n'as pas les.
On voit surtout les grosses écuries, telles que le
Paris
FC,
Paris Saint-Germain, voilà,
Lyon,
tu vois les gros.
Voire Dijon.
Voire Dijon, voilà, des équipes comme ça. Et par contre, le niveau, il est très élevé en Ligue 1.
Ça va être très, très compliqué l'année prochaine pour réussir à se maintenir et garder sa place parmi l'élite.
Oui. Et parce que l'équipe avait fait l'ascenseur il y a 4 ans, je crois.
C'était au début du Covid, malheureusement.
5 ans, je crois que ça.
Saison 2019-2020.
Voilà, tu fais bien de le préciser, de le rappeler pour nos auditeurs, Franck.
Donc, un retour, une accession en D1, et ce qui va leur permettre, évidemment, qu'on va renforcer cette équipe qui mérite justement, Patrick, d'avoir le niveau de ces équipes de D1. C'est un peu plus léger, il faut le reconnaître, en D2, mais effectivement, il y a quelques pépites dans cette équipe, mais les renforts sont obligatoires pour se mettre au niveau.
Il faudra, 2-3-4 joueuses expérimentées, et tu as quand même une bonne base.
Oui.
Et puis, Franck... a raison de le dire, mais Thierry, tu disais, elles ont été fêtées au Vélodrome samedi soir. Elles ont fait un tour d'honneur. Elles ont été extrêmement applaudies. Et on parlait avec des collègues, avec des copains qui disaient pourquoi ne pas refaire le lever de rideau, où elles joueraient en lever de rideau dans un stade plein Au Vélodrome, tu as guichet fermé pratiquement toute l'année.
Cette saison, on l'a vu avec la Ligue 1.
Et voilà, on l'a vu. Et pour avoir vu les filles, bon, elles sont passées devant mon virage, saluées et tout. Je peux te dire que faire le tour dans le stand, ça doit faire drôle. Et tu sentais qu'elles étaient... voilà, ça te motive.
Ah, ça les galvanise.
Mais... Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais faire des matchs au Vélodrome, il y aura du mal à le remplir, malheureusement, on le sait.
Le lever de rideau, c'est un événement qui manque dans le football professionnel.
Voilà. À une époque, ça existait. Ouais. Qu'on ne me dise pas que c'est une histoire de pelouse. Hein, c'est pas...
Bon, le stade est peut-être un peu plus grand, oui, effectivement.
Mais disons que tu peux arriver... Moi, je sais que le stade, j'arrive vers 19h30, 20h. Le stade, il est déjà bien plein et tu aurais match de levée parce que c'est sûr que tu as une motivation qui est différente. Quoi.
Tout à fait, Patrick. En même temps, ça leur aurait permis probablement et sûrement de consacrer justement ce titre car elles ont joué le lendemain après avoir fêté l'accession et non pas le titre de champion.
Mais c'est vrai que dans ce championnat d'Arkema Première Ligue, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'équipes qui ont des équipes masculines et on voit qu'elles jouent dans les mêmes stades, mais les rencontres ne se jouent pas au même moment. Voilà. Donc, après, de là envisager les rencontres de l'OM féminine en levée de rideau au stade de Vélodrome, ça risque d'être compliqué, mais bon, je pense que c'est peut-être une question qui a le mérite d'être soulevée.
Voilà, parce que avant, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait des matchs des matchs de levée de rideau masculin. Ouais, c'était
nous en souvenons également, Thierry et moi.
C'était les jeunes, c'était la réserve qui jouait. J'ai même connu, moi, le rugby à 13. Qui est Marseille 13, qui jouait en levée de rideau.
Ça, on
ne
l'a
l'OM.
Pas connu, non.
Voilà, moi, j'ai connu ça, il y avait une.
Mais c'est vrai que c'est une tradition qui s'est perdue ces derniers temps, ces dernières années. Hein.
Après, on peut parler d'apport au niveau des ventes de places. C'est un peu problématique. Il y a toujours ce système financier qui est au milieu.
C'était juste un truc qui a été dit comme ça par des copains autour et qui, ma foi, n'était pas forcément une mauvaise idée. On verra bien.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas le même attrait pour le football féminin que le football masculin. Donc, de l'envisager, voir les féminines de l'OM évoluer au stade de Vélodrome en levée de rideau du match de l'OM en Ligue 1.
Quitte à attendre dans le stade ou devant le stade, autant regarder un match précédent, le match attendu.
Voilà. Voilà, on referme cette partie nationale et des deux féminines. On va attaquer donc l'OM et la Ligue 1, voilà, avec le rideau qui se tire sur ce championnat de France de Ligue 1. Voilà, je vais vite revenir sur les résultats de cette 34e et dernière journée. Donc, tous les matchs avaient lieu à 21h samedi soir. Donc, Lens a battu Monaco 4-0. Lille a battu Reims 2-1, Lyon a battu Angers 2-0, l'OM a battu Rennes 4-2, on va y revenir en grande partie.
Avec grand plaisir.
Voilà, Nantes a battu Montpellier 3-0, Nice a surclassé les Brest 6-0, le PSG s'est imposé à la maison face à Auxerre 3-1, Saint-Étienne a été défait 3-2 à Geoffroy Guichard et malheureusement quitte l'élite du football français un an après l'avoir retrouvé. Et enfin, dernier résultat, Strasbourg a été battu à la maison à la Meno face au Havre 3-2. Voilà, un résultat surprenant qui permet aux joueurs de Didier Digard d'assurer leur maintien et qui propulse du coup le stade de Reims, finaliste de la Coupe de France samedi face au PSG en barrage. Voilà, et cette double confrontation face au FC Metz avec la première manche demain et le retour jeudi prochain. Voilà. On va revenir donc sur ce match de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 4-2 face au Stade Rennais pour la dernière au Vélodrome. Voilà, les joueurs de Roberto De Zerbi avec un doublé de Mason Greenwood qui termine et un doublé aussi également de l'international français Adrien Rabiot d'ailleurs qui a été récompensé du titre de meilleur joueur olympien de la saison.
En tout cas, même si on a fait l'impasse sur cette personne qui est un grand personnage, ce grand joueur dans l'équipe de l'année, ce que je trouve un peu dommageable, en tout cas, il a encore montré évidemment qu'il méritait plus qu'une place dans le 11 titulaire de l'équipe de l'année.
Oui, c'est un super joueur et On en parlera sûrement dans l'émission, les propos de la conférence de presse de Pablo Longoria, qui a parlé dans le jeu, Rabiot est important, mais dans le vestiaire. Quand tu as un mec qui est international, qui a été capitaine de la Juve, qui est un titulaire indiscutable en équipe de France, qui est le premier arrivé, le dernier parti, et que les deux premiers arrivés, c'est lui et c'est le capitaine de l'équipe du Danemark, Pierre-Emile Højbjerg, c'est les deux qui arrivent les premiers et qui partent les derniers, c'est sûr que ça a un effet d'entraînement sur les collègues.
Oh oui.
Et ça a été dit à plusieurs reprises, quand il y a eu des discussions, qu'il y a eu des problèmes, quand il a fallu vendre aux joueurs le stage à Rome, par exemple, à 4 journées de la fin.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça.
C'était il y a très peu de temps. Voilà, c'est les cadres qui ont dit, et tout le monde a suivi comme un seul homme.
L'unanimité des joueurs qui étaient proches de leur leader.
Et psychologiquement, c'est des joueurs importants. Des cadres de vestiaire comme ça, ça a un rôle énorme dans le jeu de l'équipe.
Essentiel. Hein. On a pu le voir.
Et c'est une très bonne chose qui reste, puisqu'il ne partira pas, je pense que c'est...
Je vais vers tes pensées, et pour l'instant, évidemment que tout est possible, même l'impossible, en espérant de tout cœur que de ne pas perdre nos éléments majeurs dont tu viens d'en citer deux.
Adrien Rabiot, qui n'est pas encore en vacances, puisqu'on rappelle pour nos auditeurs qu'il y a encore des échéances internationales qui sont prévues au mois de juin. Et Adrien Rabiot, en tant qu'international français, jouera avec l'équipe de France face à l'Espagne pour les demi-finales du Final Four de la Nation League. Donc un titre pour l'équipe de France à aller chercher en Allemagne en ce début du mois de juin. Et ensuite, ce sera les vacances pour pouvoir bien préparer la saison prochaine et repartir du bon pied pour démarrer cette des champions dont on connaîtra les adversaires le 28 août prochain à l'issue du tirage au sort.
Et ce qu'on peut savoir sur la Ligue des Champions, avant de revenir sur le match, c'est qu'on sera sûrement chapeau 4, c'est-à-dire qu'on va se tirer deux chapeaux.
Il y a du lourd à prévoir parmi les adversaires.
Alors c'est bien,
il fallait s'y attendre.
Spectateur, tu vas avoir des gros.
Ça promet de belles affiches au Vélodrome pour les supporters.
Ça va partir sur les chapeaux de roue.
Mais n'oublions pas que Brest, il était chapeau 4 et ça ne les a pas empêchés d'être qualifiés en 16e.
Oui,
donc,
bien sûr.
Donc ça va être l'objectif, c'est ce qu'a confirmé Mehdi Benatia après le match samedi. Sortir des poules du classement des 24 pour être en 16e et essayer de faire un bon parcours. Et donc il va falloir effectivement renforcer l'équipe, parce qu'avec des matchs de Ligue des Champions, tu fais pas la saison avec un effectif aussi restreint que celui qu'on a.
C'est évident, au-delà du fait de se renforcer, il va falloir évidemment ne pas perdre nos cadres et nos meilleurs joueurs. Évidemment que la valse du mercato va donner à des ventes, à des achats, à avoir des prêts. On est prêt à cela. Tout va s'enchaîner rapidement.
Sur ce dernier match au Vélodrome face à Rennes, que retenir au-delà de la victoire et de doubler de Mason Greenwood et Adrien Rabiot?
Au-delà du clin d'œil,
l'hommage de Stéphane Mandanda,
si je puis me permettre, qui était fabuleux, quelque chose qui est très touchant et très prenant.
C'est l'ovation que Steve Mandanda a eu à l'occasion de son entrée à la dernière minute du temps additionnel.
Il a fallu qu'Abiba insiste pour qu'il rentre sur la pelouse.
On rappelle à nos auditeurs, comme il ne sait pas encore s'il prend sa retraite, mon avis personnel, il aurait intérêt.
Apparemment, d'après les propos d'Abiba, je pense que ça a été évoqué dans la semaine. Il lui a dit qu'il voulait continuer. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il a fait démarrer Brice Samba.
Il voulait
mais apparemment,
pas,
il a été pris par l'ambiance et c'est pour ça qu'il y a eu ce clin d'œil avec cette entrée survenue à la dernière minute du temps additionnel.
Voilà, cet hommage ne met pas en réserve finalement la possibilité de continuer encore une saison pour Steve Mandanda.
Alors avant le match, quand il est venu
il a 40 ans
avec Samba, il a été extrêmement applaudi, tout le stade, et tout le monde chantait sa chanson de Il Fenomeno Mandanda. Tout le stade, pas que les virages. Et donc, je pense que ça a dû lui faire quelque chose quand même. Et quand il est rentré, ça a été assez sensationnel. Il n'y avait plus que ça, Il n'y avait plus que ça. Il a touché un ballon au pied. Il a fait une relance au pied. Et voilà, mais c'était le stade debout.
Là, c'était la parenthèse,
c'était...
évidemment.
Non, mais c'était sympa parce que moi, personnellement, j'apprécie quand on salue comme ça les anciens qui s'en vont, les trucs. Des fois, dans le football moderne, tu as des gens qui s'en vont comme des voleurs. On a... Alors que... Steve, c'est 14 ans au club, quoi. Voilà. Et
c'est un modèle, un exemple à toute épreuve et vraiment une fidélité. D'ailleurs, il s'est présenté à la fin du match en zone mixte auprès des journalistes. Il a dit qu'il avait passé ses meilleures années de carrière de footballeur à l'Olympique de Marseille. Il était très, très attaché à l'OM. Hein, donc,
au-delà de son comportement exemplaire sur toutes ses saisons passées et, je dirais, à venir peut-être. En l'occurrence, le public était là. Et évidemment, solidaire. Et j'ai apprécié, évidemment, ce moment qui était quelque chose de très touchant.
C'est vrai que grâce à l'Olympique de Marseille, il a obtenu ses galons d'international français. Il a gagné la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il doit quand même une fière chandelle à son parcours à l'OM. Hein.
Il a été champion de France, il a gagné 3 coupes de la Ligue, il a un palmarès. Et c'est vrai que... Mais il a bien rendu, puisqu'il a toujours fait le boulot. C'était un professionnel exemplaire. Moi, quand je dis je pense qu'il faudrait peut-être arrêter, c'est que bon, il a quand même 40 ans. Oui. C'est-à-dire que ça devient... J'ai le souvenir un peu pénible d'un très, très grand gardien qui s'appelait Gianluigi Buffon.
Ouais, j'allais y revenir aussi. Voilà. On se rappelle notamment de son passage en France du côté du Paris Saint-Germain.
Voilà. Où le gars, il a 40 ans, tu as moins de réflexes, tu es moins rapide. Voilà, tu as le petit dixième de seconde de retard qui fait que...
Il ne faut pas faire l'année de trop. Voilà. Après, c'est vrai qu'on fait le comparatif entre les joueurs de champ et les gardiens de but, mais c'est vrai que le poste de gardien de but, c'est quand même un poste très particulier.
Poste clé, très compliqué et des fois une petite erreur et ça serait un peu... Après, si lui le sent, s'il se sent capable, c'est lui qui décide.
Oui, la réponse lui appartient. Tu as tout à fait raison, Patrick.
La réponse lui appartient. Mais en tout cas, sa rentrée a été un moment important parce que c'est bien de se rappeler, de saluer les anciens. Sinon, sur le match, très bonne première mi-temps. Jouer à la baballe en seconde où tu sentais que... Dès que Rennes a accéléré, ils ont mis un second but, on a repris le ballon et on a mis le quatrième. Et on n'a pas eu... Le seul petit regret, c'est que Greenwood n'est pas mis un but. Il a raté un
pénalty. Il y a eu ce pénalty raté.
Oui. Samba arrête parce qu'il n'est pas si mal tiré. Voilà. Après, moi, on va dire que ça fait vieux con, mais moi, on m'a toujours dit on ne tire pas deux pénaltys, surtout à 10 minutes d'écart dans le même match, au même gardien. On change de tireur
aussi.
Voilà, et je pense que...
Moi, honnêtement, j'ai pensé que ça allait être Leonardo Balerdi qui allait tirer ce pénalty.
Parce qu'en plus, il y avait Guiri qui a proposé de tirer. Mais bon, je pense qu'il voulait qu'il marque pour le titre de meilleur buteur.
C'était la symbolique qui pouvait lui permettre de remporter le titre de meilleur buteur.
Au-delà de la symbolique, il s'agissait de lutter pour le titre de meilleur
buteur. C'était surtout le fait de prendre la place de meilleur buteur devant Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain.
Bon, finalement, ils sont à
égalité
et on donne
à celui qui a tiré le moins de pénaux.
En l'occurrence, c'est le Parisien, Ousmane Dembélé, qui a obtenu moins de pénalty que...
Du coup, il aurait quand même dû le marquer, ce pénalty.
Il aurait marqué, il aurait été devant. Et puis, il a eu un second mi-temps, deux très belles occasions. Ouais. Alors, Samba fait de gros arrêts. Hein. Mais il a eu deux gros ballons pour mettre un troisième but. Et ça aurait été sympa pour lui qu'il soit meilleur buteur. Ça aurait fermé quelques bouches.
Et pas Samba, meilleur gardien.
Il y a un
passage à Marseille assez court.
Sinon, en première mi-temps surtout, tu as fait un très bon match avec un très bon Rabiot, en 10, qui a fait un super match, avec Greenwood qui a été très bon, avec Guiri qui a fait son match. Et globalement, l'équipe a été bonne.
Oui, même au milieu de terrain, ça a été, je dirais, assez costaud, solide. Ça a joué ensemble, ça a développé, a essayé en tout cas en première mi-temps. En seconde période, tu as raison, on a joué un peu plus à la baballe, façon de parler. Oui. Mais ça va, on a été, et quand on a pris un but, on a su réagir, 4 à 2, finalement.
C'est sympa.
est un score plaisant. On a marqué plus de buts que l'adversaire. Même si on peut faire une parenthèse sur un but d'un ancien Marseillais qu'on est, oui. Va-t-il être racheté par Rennes? Vont-ils prendre l'option d'achat?
L'international canadien qui est prêté par l'Olympique de Marseille, on le rappelle. Cette ouverture du score d'Ismaël Koné, comme tu le dis si bien,
quel
Franck, juste avant le quart d'heure de jeu, sur une passe de Lilian Brassier, lui aussi, qui était à l'Olympique de Marseille en ce début de saison et qui a quitté le club olympien durant le mercato hivernal.
Ouais.
Voilà, un petit mot sur ces deux ex-olympiens revenus au Vélodrome titulaires dans la peau du
Stade Rennais. Je commence par le plus nul, si tu peux le permettre, pour dire que Brassier était à son image. Autrement dit, il n'a pas été flamboyant. Autrement dit, il a été nul, je me permets de le dire.
On n'a pas gardé un grand souvenir du côté d'Acanbière et de l'Olympique de Marseille.
Je crois qu'à Rennes, ils ne vont pas garder un grand souvenir.
Voilà, quand on a eu le recrutement l'année dernière, moi j'avais des doutes sur Wahi parce qu'il avait, il s'était pas très bien passé à Lens. Ouais.
Mais c'est vrai que Lilian Brassier, on l'a quand même vu jouer, faire une grosse saison avec le Stade Brestois. Donc,
il avait été excellent. Le problème de ce garçon, c'est que quand il s'agit de relancer de l'arrière, et dans le jeu de Deserbi, c'est essentiel, il a tendance à avoir un peu les pieds qui tremblent. Et là, on l'a vu effectivement, comme tu disais, Franck. Alors, je dirais pas qu'il a été
technique, voilà.
Je dirais pas qu'il a été mauvais, mais il y a des moments où eux aussi, ils repartent de l'arrière. Oui. Il a le ballon, il met un grand coup de pied devant.
Mais pour l'avoir vu sous les couleurs de l'OM en début de saison, ça a quand même été assez criant. Hein.
Très, très criant. Oui, il paniquait quand il avait le ballon. Mais ça, le Vélodrome, c'est un atout parce que c'est un stade qui te porte. Mais ça peut être dur parce que des fois, les gens sont rudes. Hein. Et je pense que Benatia et Longoria ont très bien fait de l'exfiltrer en janvier, parce que le garçon, il avait une appréhension qu'on a vu effectivement samedi soir dans 2-3 reprises. Il a dû relancer, tu sens que sous pression, il est pas très sûr.
Et là, il a repris confiance sous les ordres de Abibay avec l'équipe du Stade Rennais.
Oui, il a fait une bonne saison, demi-saison avec Rennes. Après, c'est des choses qu'on a déjà connues à Marseille, des joueurs qui ont du mal au Vélodrome. Pour le maillot, il est lourd. Et et on le voit en équipe nationale aussi, des joueurs qui sont bons en club, ils arrivent en équipe de France. Voilà, il y a un blocage psychologique.
En ce qui concerne Brassier, c'est évident que ses limites techniques sont criantes et elles n'ont pas évolué en partant à Rennes. Maintenant, peut-être que Koné aura la chance de tirer son épingle du jeu, ou dans cette équipe, ou en revenant chez nous.
Alors, j'ai entendu que son profil ne plaisait pas spécialement à Roberto De Zerbi. D'ailleurs, je crois que Il a pas trop validé son arrivée en provenance de Watford en début de saison, mais ça a été un choix peut-être imposé par la direction et par Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Mais c'est sûr que vu le peu de temps de jeu qu'il a eu sur cette première partie de saison, on ne peut pas dire que ce soit un profil qui plaise forcément aux techniciens italiens de l'Olympique de Marseille.
On peut le comprendre. On peut imaginer d'autres milieux de terrain beaucoup plus, performants que lui-même.
C'est-à-dire, De Zerbi, il aime bien les milieux tactiques. Lui, c'est typiquement le joueur de championship, box-to-box. La grande baraque, costaud, puissant, qui rentre dedans. Et De Zerbi préfère les joueurs plus créatifs, plus techniques. En plus, à l'OM,
avec un bagage technique,
c'est sûr qu'avec la blessure de Carboni en octobre, il s'est fait les ligaments croisés.
Ça a amputé la saison pour un meneur de jeu.
Jeune Argentin qui a dû être
qui a été renvoyé à l'Inter Milan. Et même, y compris les blessures et les pépins physiques de Harit, il y a eu un manque de technicité au milieu. Ouais. Et De Zerbi, il aime bien. Et c'est vrai que Koné, il est un peu frustre.
Ouais, c'est-à-dire,
il rentre, c'est un battant. Après, le but qu'il met, il le met aussi parce qu'il est détourné.
Le ballon est détourné
par Hollberg,
c'est Hollberg, c'est Pierre-Emile Hollberg qui le détourne. Qui est sur la trajectoire du ballon.
Il part en lucarne, c'est intouchable. Mais
ça a permis à Koné d'accomplir un magnifique but.
Oui, un joli
part.
But. Ouais. Mais ce qu'on a noté quand même, c'est qu'il n'a pas fêté le but. Il est resté plutôt sobre
et discret.
Une réserve honorable.
Le mieux serait qu'on arrive à le vendre On récupérerait de l'argent.
Ouais, je crois que l'option est de 14 millions, me
oui,
semble-t-il.
Oui, 14 millions. Et
pour un.
On verra, mais je ne pense pas qu'ils reviennent. On sait que Unai ne reviendra pas non plus.
Là, c'est pas plus mal.
C'est plus un problème d'engagement et de continuité dans le jeu. Unai est très doué, mais alors... il passe à côté, c'est un joueur
voilà,
qui
il faut rester dans l'optique
quoi.
De jeu de Deserbi. Hein,
voilà. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est parfois compliqué. Quoi. Mais donc, le recrutement il va être compliqué. Et on verra bien ce que va faire notre staff.
Alors, le bal va s'ouvrir officiellement après, je crois, la Coupe du Monde
des clubs qui démarre mi-juin. Mi-juin jusqu'à mi-juillet. Donc,
je crois que le 10 juin, peut-être.
Il y a un mercato spécial du 1 au 10 juin pour les clubs qui jouent le championnat du monde.
La Coupe du Monde des clubs aux États-Unis.
Et les autres, c'est le 15 juin, le début du mercato.
Voilà.
Mais on sait que l'OM chasse les joueurs libres. Ce qui est pas con, parce que
ce qui est judicieux,
tu as pas des sommes d'argent énormes à mettre, et si tu peux avoir 2-3 joueurs en fin de contrat qui te coûtent que comme on a fait avec Rabiot, mais qui vient, il y a pas de transfert. Ça te permet de lui filer une prime, la signature, et ça nous aiderait bien, parce que si tu arrives à avoir, on parle de la porte de Boscagli en charnière centrale.
C'est d'actualité.
C'est les joueurs qui...
On a entendu parler aussi de Facundo Medina, le
également,
défenseur argentin
du
Racing Club de Lens.
Des profils fort intéressants.
C'est un profil qui plaît apparemment à Mehdi Benatia et Pablo Longoria.
Oui, le problème de Medina, c'est que Lens en demande 30 millions.
Pourra-t-on s'aligner justement
voilà.
sur
les Et d'après ce que moi je lis entre les lignes des interviews de Benatia et surtout de Longoria dans l'équipe ce matin.
Voilà, juste pour nos auditeurs, on rappelle qu'il y a Mehdi Benatia qui était invité hier sur RMC de l'émission de Jérôme Rotten, et il y a Pablo Longoria qui a fait sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison, comme il avait fait à la mi-saison hier dans les salons de l'Orange Vélodrome. Et donc, il a dressé... un bilan complet de la saison sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, les points, les axes forts, les axes améliorés pour, en vue de la saison prochaine et cette participation à la phase de groupe de Ligue des Champions.
Également parler de son profil personnel et de son action sur l'année.
Sur le mercato. Sur le mercato, moi j'ai l'impression, c'est ce que j'ai lu entre les lignes, c'est que si tu peux faire 2-3 joueurs libres, on parle d'Angel Gomez, le milieu terrain de Lille, qui est anglais, qui a 4 ou 5 sélections anglaises, qui a 24 ans, qui n'était plus aligné parce qu'il n'a pas voulu prolonger à Lille, mais qui est un joueur intéressant, c'est plutôt un défensif. On parle donc de la porte que Al Nassr libérerait, de Boscagli qui joue au PSV Eindhoven, qui est libre.
Après, moi, j'ai entendu que Mehdi Benatia allait sonder pratiquement tous les joueurs sur la scène européenne qui se retrouvaient en fin de contrat. Donc après, c'est pertinemment qu'il n'y aura pas tous qui répondront favorablement à la demande de l'Olympique de Marseille, mais il y a beaucoup de profils qui peuvent être très très intéressants pour
puisqu'on parle de la défense,
jouer la Ligue des Champions. C'est vrai que c'est le grand chantier, la défense, c'est vraiment là où le bas blesse sur cette saison qui vient de s'achever.
On attend quand même de
gros renforts en vue de cette Ligue des Champions pour pouvoir vraiment faire bonne figure dans cette compétition.
C'est vrai que Balerdi est un bon joueur.
Après, quid de son avenir.
Voilà, Balerdi reste pas de lézard. Mais par contre, il faudrait lui mettre un costaud à côté. Parce que, pour la Ligue des Champions, c'est vrai que l'idéal serait Aymeric Laporte. C'est quand même un titulaire de l'équipe d'Espagne championne d'Europe.
Déjà, prendre des joueurs à profil pour jouer à 4 derrière, on ne va pas repartir penser aux latéraux, penser aux axiaux en défense.
Un joueur expérimenté qui a déjà disputé la Ligue des Champions, notamment sous les couleurs de Man City
en
Angleterre.
Ça serait intéressant. Ça coûte cher en salaire, mais ça serait intéressant. Boscagli, moi j'aime bien. C'est un mec qui a joué au PSV Eindhoven. Tous les gens, ils sont en Ligue des Champions. Il tient sa place. C'est un gars intéressant. Mais il se dit qu'il est monégasque de naissance et qu'il aimerait aller à Monaco. c'est possible, donc quelqu'un n'est pas en tête de liste. Sinon, il y a
quelques... c'est vrai qu'il a déjà évolué sur la Côte d'Azur du côté de l'OGC Nice. Ouais. Donc peut-être un retour en France et en Ligue 1 sur le Rocher Monégasque.
Voilà,
c'est ça peut-être une piste plus plausible.
De la Côte d'Azur,
que...
on peut passer en Provence. Hein,
et Medina, moi, j'aime bien. C'est en plus le type de joueur argentin qui plairait au Vélodrome. C'est un guerrier.
Assurément.
Par contre,
on sait qu'il a fait ses débuts il y a peu de temps en sélection nationale argentine.
Voilà,
donc, un joueur que Leonardo Balerdi et Jérôme Rulli connaissent bien, puisque ils sont ensemble en sélection sous les ordres de Lionel Scaloni. C'est peut-être une piste à creuser pour la direction marseillaise.
Si on prend compte que Balerdi va rester en poste, et nous le souhaitons de tout cœur, évidemment, l'accompagner sur cette défense prochaine en construction. Et déjà, faut-il trouver les joueurs pour la construction?
Alors, sur ce qui se dit en interne, c'est-à-dire ce que Bendy Benatia appelle une maladie qu'il faut curer d'ailleurs dans son interne.
Et Pablo Longoria a dit, c'est ce qu'il a énuméré son point de presse hier face aux journalistes.
Il y a beaucoup de choses qui sortent et qui sont dommageables. C'est vrai que quand tu travailles...
Pour reprendre les termes de Pablo Longoria, il a dit « la maladie, je vais l'éradiquer ».
Voilà.
Voilà, c'est quasiment du mot pour mot, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein.
Quand tu bosses à huis clos au centre d'entraînement, que tu prépares une mise en place tactique pour jouer, que le lendemain matin, elle est en première page dans l'équipe, c'est embêtant. Didier Deschamps avait le même problème en équipe de France. Hein.
C'est souvent le cas.
Voilà, c'est souvent le cas. C'est pas le cas à Auxerre ou à Brest. Hein.
Mais
ça
c'est sûr
pas.
Que dans des grands clubs
mais
comme l'Olympique de Marseille.
Et ça, c'est embêtant. Et alors, on en rigole, mais Paris, ils ont leur centre d'entraînement, c'est un bloc, c'est Guantanamo, comme dit Pablo Longoria.
Visiblement, on n'a pas le même accès du côté du campus de Poissy à Paris que du centre Robert-Louis-Dreyfus à Marseille.
Marseille.
Il y a des fuites beaucoup plus
parisiennes. C'est quand même un problème. Et donc, peut-être, il faut, alors sans tomber dans la parano, hein, mais il faudra un peu faire attention que les trucs... Parce qu'y compris, d'après ce qu'on peut savoir, hein, par des gens qui traînent autour...
On
et
peut parler
club,
des salaires
voilà,
administrativement parlant.
Il a été question d'engueulades entre joueurs, d'incidents, quand il y a eu le fameux ritiro là, à Rome, si tu écoutais certains journaux, certaines radios... c'était la guerre en interne.
Mais il y a eu beaucoup de soucis et c'est ce qui a énormément déplu. Voilà. Et Pablo Longoria n'a pas hésité à...
Fort bénéfique.
Alors que ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas vrai. C'est les joueurs qui ont proposé. Mmh. Et les cadres, ils ont verrouillé. S'il y avait deux, trois pas contents, ils n'ont rien dit. Ouais. Et il n'y a pas du tout eu de problème.
Il y a notamment eu la sortie concernant... Les joueurs qui n'ont pas voulu sortir du vestiaire pour suivre cet entraînement. Et d'ailleurs, c'est un des adjoints de Roberto De Zerbi qui a dirigé la séance d'entraînement,
ouais.
Il me semble.
C'est
surtout cet épisode
voilà,
qui a fait
il y a des trucs qui sortent, qui sont montés en épingle. Moi, je regarde beaucoup l'équipe télé parce que c'est... Voilà, ça me parle
du coup,
fou.
Heureusement qu'on n'a pas Domenech comme entraîneur.
Voilà.
Tu me permets la parenthèse.
Voilà. Et donc, tu te retrouves où tu fais l'ouverture...
Petit aparté.
Des trois émissions de foot le soir. Tu as 7 heures d'émission l'après-midi. Et le soir, tu fais l'ouverture. Il y a trois quarts d'heure à chaque fois où on dit les mêmes choses. Et c'est le feu et c'est la guerre. Alors qu'en fait, quand tu regardes, si c'est la guerre, tu n'es pas second. Tu n'as pas gagné les matchs et tu n'es pas où tu en es. Parce que si les joueurs, ils te lâchent, ils te lâchent. Et donc, il y a un truc malsain derrière qui est compliqué, qu'il faut arriver à verrouiller. Donc, je disais, Deschamps avait les mêmes problèmes en équipe de France. D'ailleurs, Deschamps, quand il entraînait l'OM, il avait les mêmes problèmes.
Effectivement.
Mais lui, il avait un mec qui le poignardait dans le dos en interne.
Ça
mais
lui avait pris 12 kilos voilà, en quelques années, un peu de temps.
C'était notre problème. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc à régler. Parce que ça peut créer des problèmes alors qu'il n'y en a pas, voilà. Et moi, je pense que d'après ce qu'on sait, hein, c'est-à-dire, voilà, Rabiot reste, De Zerbi reste, Balerdi veut rester, même Rongier veut rester, il essaie de gratter du fric, un salaire. Mais
évidemment, c'est compliqué, il ne
veut
pas
Valentin Rongier qui n'a pas joué ce dernier match face à Rennes, qui était blessé. Voilà,
mais il souhaiterait un salaire un peu plus, c'est normal.
Mais il est dans la liste des probables partants.
Hein, oui, quand tu regardes bien, lui ne veut pas, donc ça se discute.
On sait qu'il y a déjà le Stade Rennais qui s'est intéressé de très très près à son profil durant le mercato.
Justement, à le court. Parlons français, oui. Mais... Il se trouve simplement que Rongier a refusé de re-signer il y a peu de temps. Alors, va-t-on le faire re-signer ? On ne va pas le laisser partir libre la saison d'après.
C'est vrai que sur ce mercato hivernal, c'était plutôt Jorge Sampaoli qui a été démis de ses fonctions, qui s'intéressait de près à Valentin Rongier, qui voulait le recruter du côté de la Bretagne et des Rouges et Noirs du Stade Rennais.
Vu l'utilisation qu'il en a fait avec l'OM, on peut le comprendre.
Après, quand tu regardes le cas de Rongier, c'est pas un garçon qui cherche, sinon tu vas en Arabie Saoudite, tu veux que les ronds, tu vas en Arabie Saoudite. C'est un joueur qui a envie de jouer la Ligue des Champions, qui a envie de rester, il sait qu'il sera pas titulaire mais qu'il sera dans la rotation, donc je vois pas trop ce qu'il irait faire à Rennes.
Mais le projet financier est également présent pour son cas.
Oui, mais lui, il a un an à la fin du contrat, il négocie un nouveau contrat, il essaie d'avoir une augmentation. Et s'il demande la même chose que Rabiot, il n'aura pas. Mais à mon avis, il essaie d'avoir un peu plus que ce qu'il a et un peu moins que ce qu'il demande.
Ça reste légitime de la part de Rabiot, je peux le comprendre également.
Et disons que, donc je disais sur les informations de première main qu'on peut avoir, en fait, l'objectif de Longoria et de Benatia, c'est de recruter une pointure en attaque.
Oui,
aussi, parce qu'on considère
pour jouer la Ligue des Champions, c'est très important d'avoir...
Jonathan Rowe, il est bien sympa, je l'aime bien, mais on l'a vu samedi soir, c'est un bon joueur,
il a été de nouveau préféré à Luis Enrique, qui devrait...
Voilà, oui, de toute façon, il s'en
partir. Et d'ailleurs, Pablo Longoria a dit que pour les comptes, il faudrait boucler son transfert avant la fin de l'exercice, c'est-à-dire
le
30 juin.
Voilà, par rapport à la DNCG.
Voilà.
Mais donc, disons que c'est trop léger, tu as Guiri, tu as Greenwood, il te faut une pointure. En Ligue des Champions, il te faut quelqu'un.
Voilà, parce qu'avec Mbappé et Rao, ça ne suffira pas pour aider Greenwood.
Voilà, et Moumbagna qui revient, qui s'est fait les croisés l'année dernière.
Ça,
et
ça reste plus qu'incertain.
Qui n'a pas encore rejoué.
C'est pas véritablement une option fiable.
Il se peut qu'il soit d'ailleurs prêté, Moumbagna, parce qu'il faudra qu'il retrouve du temps de jeu. Et donc,
il faut qu'il retrouve du rythme, surtout.
Il voudrait une pointure.
Qu'il n'a pas joué depuis un petit moment.
Et soit tu fais ce que tu as fait avec Wai, c'est-à-dire un pari à 20-25 millions, un jeune.
Mais là, une année de Ligue des Champions, de nouveau faire un pari, c'est quand même osé de la part de la direction.
Donc sans aller taper dans les mecs qui sont intouchables, on parle les Gyökeres, les Cesco, les Osimhen. C'est des 70 millions d'euros, 80 millions.
On a foiré le plus gros transfert ces dernières années avec Vitinha.
Il y a encore un profil comme...
On peut trouver quelqu'un, évidemment, dans ce registre.
Voilà, tu peux trouver à 40-45 des joueurs.
Encore ce Cesco qui ne jouera pas de Coupe d'Europe avec le Rasen Ball Leipzig.
Voilà encore un profil fort intéressant.
Quand tu sais qu'il est estimé à 60-70...
C'est un joueur qui a une très grosse valeur marchande.
Et qu'il y a Arsenal qui le veut, parce qu'il y a aussi le salaire derrière.
Mais c'est vrai qu'il y a plus de probabilité de le voir quitter la Bundesliga pour aller en Première Ligue qu'éventuellement en France et à l'Olympique de Marseille.
N'oublions pas pour l'OM l'équilibre financier qui est primordial.
Si tu veux
ça reste
pointure,
encore fragile au niveau financier.
Tu restes sur des joueurs. Moi, je l'avais vu en Ligue des Champions contre Monaco, l'avant-centre grec du Benfica, Pavlidis, qui est estimé à 40-45. Alors, ça fait cher, mais tu tentes sur un coup un mec qui a confirmé, qui est international, qui est titulaire au Benfica, qui a fait ses preuves contre Monaco. C'est lui qui balance Monaco.
Une équipe qui joue régulièrement les Coupes d'Europe et la Ligue des Champions, le Benfica
Donc,
Lisbonne.
Donc, si tu veux mettre de l'argent sur un joueur comme ça, tu n'as pas les possibilités derrière d'embaucher 3-4 gars.
La finalité est là, Patrick.
Que Medina, 25-30 millions.
Ouais.
C'est vrai que ça a une marge de manœuvre limitée.
Comment peut-on être ambitieux sans dépenser trop d'argent. Et l'équilibre financier est très complexe à trouver.
Après, on espère que le patron de l'OM, Franck Macourt,
oui, mais
sortira le carnet de chèques pour pouvoir donner débit à son entraîneur pour la Ligue des Champions.
Il le fait depuis qu'il est arrivé. Hein.
Tous les ans, il ne faut pas l'oublier.
Avant qu'on passe devant la DNCG, il verse 20, 30, 40.
C'est lui qui équilibre les comptes
chaque
année.
C'est-à-dire qu'il comble le déficit. Voilà. Puisque la DNCG, ce qui les intéresse, c'est que tu finisses la saison. Voilà. Après, il y a un problème d'équilibre recettes-dépenses, le fair-play financier. Et tu n'as pas, vu qu'il n'y a pas le droit télé l'année prochaine, normalement, il n'y en aura pas.
Il ne faut pas trop y compter.
Voilà,
tu
peux budgétiser 50-60 millions d'euros de la Ligue des Champions.
Ouais.
Il n'y aura pas de rentrée d'argent de ce côté-là. Donc, pour les dirigeants de l'OM, il ne faut pas se faire d'illusions.
Voilà, donc, tu vas avoir tes recettes de stade, tes abonnements. Ça sera plein, d'accord. Les matchs de Ligue des Champions, tu en as 4 au Vélodrome. Tu vas faire un guichet fermé. OK.
Aussi.
Si tu prends, Lille a pris 70 millions pour être en 8e de finale. Donc, si tu arrives, c'est l'objectif.
Oui, on mais peut 70, faire le comparatif avec
ça
le.
Ça ne te permet pas de recruter pour 100 millions. Quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que tu vas devoir. D'où le fait de chercher. J'ai entendu sur l'équipe un journaliste qui a dit un truc qui m'a pris l'oreille. Dans les joueurs libres, il a dit il y a Tagliafico, l'arrière-gauche international argentin.
Champion du monde,
qui a fait le contrat à Lyon et qui a un passeport italien, je crois.
Ouais.
Donc, il est considéré comme européen.
Alors, ça sera nettement mieux que Luis Felipe, que nous allons peut-être conserver.
Ah, c'est sûr que Tagliafico, voilà. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, on le connaît bien, puisqu'il évolue depuis 2 ans, il me semble, du côté de l'Olympique Lyonnais. Il est champion du monde, international argentin. C'est quand même une valeur sûre à ce poste de latéral gauche.
Oh, que oui. Donc,
puisque De Zerbi veut jouer à 4, il te faut des latéraux qui défendent de bien.
Ça serait plutôt une bonne pioche
s'orienter
vers Nicolas Tagliafico.
Voilà. Donc lui, si tu arrives à avoir la porte Angel Gomez, l'anglais de Lille, ça te fait des renforts à zéro. Alors, tu auras des primes à la signature.
Oui,
3, 4
c'est vrai
millions.
Que les joueurs.
Tu seras obligé de mettre un salaire en haut, mais tu n'as pas à sortir comme Medina, 30 millions. Voilà. Voilà. Et ça te permet de laisser l'argent sur une pointure de vin.
Un bon gestionnaire est d'abord un homme intelligent qui va comprendre justement les tenants.
Et c'est vrai que pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille, et je sais que ces dernières années, ils ont la hantise de voir des joueurs partir en fin de contrat pour ne pas toucher un centime d'euro.
Revenons sur le cas de Rongier à ce moment-là.
Voilà. Sauf si c'est prévu en amont, comme avec Rabiot. Où tu as
après, c'est vrai que Adrien Rabiot, c'est peut-être un cas particulier.
Il est arrivé libre et tu as un arrangement, y compris, il se dit même que si
personne ne
pas
s'attendait à voir Adrien Rabiot débarquer à l'OM ces derniers jours du mois de septembre 2024.
On s'attend à le conserver, absolument.
C'est ce qu'avait expliqué,
surtout pour jouer la Ligue des Champions.
Oh, oui.
Ce qu'avait expliqué Benatia à Samir Nasri, c'était sur Canal, puisqu'ils se connaissent bien, et il lui avait dit j'ai tenté. Le mec a été surpris que je l'appelle, il s'y attendait pas.
Il s'agit de relations d'hommes.
Comme il n'a pas trouvé un truc qui l'intéressait, il t'a dit « Ok, je viens chez toi ». Mais il y avait quand même un arrangement, un gentleman agreement, comme on dit en anglais.
Yes.
Si on n'est pas en Ligue des Champions, on te laisse partir pour 10 millions d'euros, une somme modique, et tu t'en vas. Tu es en Ligue des Champions, je pense qu'il restera. D'ailleurs, son interview d'après-match, il dit
au micro de John Ferreira sur Bein après le match face à Rennes samedi.
Je rêve de jouer la Ligue des Champions ici.
On sait pertinemment qu'il est venu pour ça. Donc il veut absolument découvrir la Ligue des Champions.
Même
dans cette,
s'il y avait quelques ambiguïtés
dans ce stade de Vélodrome.
Dans son discours, mais je suis assez d'accord avec son propos. Il a gardé une légère ambiguïté.
En plus, n'oublions pas. En 2026, il y a la Coupe du Monde.
C'est vrai qu'à la fin de la saison prochaine, il y a quand même une grande échéance pour l'équipe de France et pour lui, à titre personnel.
Voilà. Ça sera probablement sa dernière, parce qu'il a 30 ans. Il en aura 31. Ça sera sa dernière. Tu ne prends pas le risque de partir dans un gros club anglais, allemand, un truc comme ça. si tu mets en danger ta place en équipe de France.
D'autant plus que la construction donc, voilà. est bien lancée et que voilà. là, il se sent,
Bien.
Comme c'est lui,
voilà. Encore que peut-être l'édition 2030, ça peut être encore jouable pour Adrien Rabiot.
Forte anticipation de ta part.
35 ans, ça commencera à faire.
Les unes après les autres.
Pour un milieu qui travaille beaucoup, qui court beaucoup. Et n'oublions pas qu'il a commencé jeune et qu'il a quand même toujours été dans des clubs.
Quand on voit ses débuts sous les couleurs parisiennes.
Paris Saint-Germain, la Juve, des clubs qui jouent beaucoup de matchs.
Ouais.
Il est international, la Coupe
avec
du Monde,
les échéances internationales en équipe, en sélection.
À 35 ans, tu es bouilli, même si tu as encore quelques mecs qui arrivent.
Alors, l'objectif, messieurs, conserver nos meilleurs éléments et essayer d'étoffer dans cette équipe en faisant venir d'autres bons éléments. Et en même temps, évidemment, renforcer une probabilité de banc. On a déjà des joueurs qu'on n'est pas sûr de garder, ce qui ne sont pas les meilleurs. Mais bon, sur les deux latéraux, on
apporter parlait, quelques retouches par-ci, par-là sur chaque secteur de jeu, que ce soit en défense. Surtout, on sait que la défense, c'est quand même le gros chantier.
Cette base, absolument.
Oui. C'est vrai que cette année, bon, on a eu...
On n'est pas dépourvu au milieu.
Mais bon,
devant.
C'est vrai qu'on a, on a marqué pas mal de buts, avec 74 buts.
Il ne faut pas l'oublier, la deuxième meilleure attaque.
C'est un bon ratio sur une saison.
C'est 2,3 buts par match. Et en plus, c'est créé beaucoup
d'occasions. On a énormément encaissé. Donc,
on en a trop pris des buts.
Voilà. C'est surtout à ce niveau-là qu'il va falloir rectifier le tir pour la saison prochaine.
Je crois que ça date des années 80, où on avait pris
après,
autant de buts.
Quand tu regardes les équipes de Zerbi, il a toujours beaucoup pris de buts. Parce que tu presses haut, tu joues l'attaque, tu gardes le ballon, et si tu te fais contrer, tu es en danger. Mais ça veut dire qu'il faut, Franck parlait des latéraux, Murillo, moi j'aime bien.
On va le conserver probablement. Oui. Garcia, c'est peut-être
Ulysse
un peu moins
Garcia,
sûr.
Comme remplaçant, il n'est pas problématique. Il ferme sa gueule, il est sérieux, il travaille. Tu le gardes en remplaçant, il te faut... Parce que Merlin, défensivement, c'est un peu léger. Même si j'aime bien la qualité du joueur, c'est un fin joueur technique.
Je pense qu'il pourrait repartir vers Nantes.
Un profil comme Geoffrey Kondogbia, qui était absent également au même titre
blessé,
que Valentin Rongier samedi pour ce dernier match. Bon, on sait qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, énormément gêné par des pépins par-ci par-là. Donc, le milieu de terrain centrafricain de l'Olympique de Marseille, là, on garde
utile,
ou on laisse partir?
Moi, j'aurais tendance espérer de le conserver parce qu'il est utile autant au milieu de terrain, surtout, et il peut évidemment rendre service s'il y a quelques manquements derrière. Il peut s'intégrer.
C'est un profil intéressant dans la mesure où il a quand même une certaine polyvalence.
Et Patrick le dit souvent, c'est quelqu'un qui ne dit pas un mot déplacé plus que l'autre.
Il a toujours été
correct
dans le vestiaire.
Et c'est un leader de vestiaire. Le truc, c'est que si tu joues la Ligue des Champions, donc tu la joues, tu vas avoir, il faut compter entre 45 et 50 matchs minimum.
Là, ça va faire un calendrier plus chargé par rapport à cette année, avec un match par semaine, avec uniquement la Ligue 1.
8 matchs de poule, ça fait 42.
Et 9 temps, une Coupe de France qu'on aimerait remporter.
Tu risques de tourner à plus de 50 matchs.
Ah oui, là ça va faire un calendrier très chargé.
Au milieu de terrain, tu as Højbjerg, puisque Højbjerg, je rappelle qu'il était prêté, on a levé l'option d'achat, on l'a acheté.
Et tant mieux.
Donc lui, il reste. Et le problème, c'est que tu as Bennacer.
Va-t-on le conserver?
Qui a eu, normalement, oui. Et Bennacer, le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de petits pépins physiques et puis depuis 2-3 ans.
C'est récurrent chez lui.
Ouais. Alors, le fait
d'avoir... Ça a été une année compliquée pour Ismaël Bennacer. Tant avec l'AC Milan en début de saison que depuis son arrivée en janvier dernier à l'OM. Ouais.
Après, on sait qu'un joueur qui a des pépins physiques, il met du temps à retrouver du rythme. Et donc, tu peux espérer qu'une bonne préparation et surtout une alternance. Il ne faut pas que le mec il joue.
Après, ce qu'on peut dire aussi concernant Ismaël Bennacer, au même titre que Amine Gouiri, c'est qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations à disputer au mois de décembre.
Décembre
également. Décembre, du 21 décembre au 18 janvier, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc avec la sélection des Fenech algériens.
Donc, ça veut dire
une échéance internationale très importante pour le milieu de terrain.
Ah ouais, absolument.
En plus, l'équipe d'Algérie est un des favoris. Il part partent le 15 décembre pour préparer et ils reviennent peut-être le 20 janvier ou un truc comme ça.
Et c'est vrai que malheureusement pour Vladimir Petkovic, le sélectionneur algérien, il a raté le dernier rassemblement au mois de mars avec l'Algérie, donc par rapport à des problèmes physiques, c'est compliqué pour Ismaël Benacer.
Alors après, d'après ce qu'on peut savoir, c'est un peu le même truc que Luis Felipe Ramos.
Ouais.
Tu te dis qu'avec une bonne préparation et tout, ça peut tenir.
Ben, nous le souhaitons de tout cœur, on l'a pas
vu. À condition de ne pas lui demander de faire 50 matchs. Mm. C'est vrai qu'un Adrien Rabiot, il va te faire 50 matchs dans la saison. Benacer
et sur Luis Felipe Ramos qui était titulaire qui a été aligné au coup d'envoi par Roberto De Zerbi
face à Rennes, il faut le souligner également, j'étais content de, justement de l'apercevoir plus que quelques minutes.
Qu'est-ce qu'on fait, on le garde ou on le laisse partir, l'ancien joueur de Al Ittihad en Arabie Saoudite qui a connu des pépins
à répétition.
Moi, je mettrai une pièce parce que bon.
Avec une bonne préparation, ça peut éventuellement le faire.
Je parle aussi.
Pour la Ligue des Champions, Ramos, ça vaut le coup de le conserver.
Pas pour un élément déboulonnable, un titulaire, non. Mais un joueur qui va rendre service à l'équipe dans la mesure où il est intégré dans cette équipe et qu'il est prêt à être sur le banc. Et
on sait, comme le disait Patrick, on va avoir un calendrier assez surchargé avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Donc il va falloir bâtir un effectif qui soit quand même assez important pour jouer sur toutes les compétitions.
Alors, en quantité, en qualité, Patrick.
Sur ce qu'on a pu lire...
Rapidement, puisqu'il nous reste plus loin.
C'est que, en particulier à Rome, lors du ritiro, là, quand ils sont allés en préparation, c'était un des leaders de vestiaire, mettait la musique, il était. Voilà. Ouais. Et donc, il est, semble-t-il, bien intégré.
Ah,
il
c'est
a une expérience, et on l'a vu contre Rennes, il a joué que la première mi-temps.
Oui, c'est vrai qu'après, il a été remplacé.
Remplacé parce que physiquement, il revient une blessure, tu ne veux pas qu'il
Il n'a pas forcément le rythme, les 90 minutes.
Ou parce qu'il a pris un carton jaune.
C'est-à-dire qu'avant cette pseudo-mi-temps, il n'avait joué que 10 minutes ou un quart d'heure.
Voilà, il a pris un carton jaune pour un engagement un peu excessif sur une action où il est venu tacler, mais à l'italienne, hein, c'est-à-dire au rugueux. Saute, sinon tu vas avoir ta jambe, voilà. Et donc, il avait pris un jaune. Donc, est-ce qu'il a sorti parce qu'il avait un jaune et qu'il n'a pas voulu prendre le risque? Ou est-ce qu'il a sorti parce que physiquement, il a voulu le protéger?
Probablement un peu des deux.
Un peu des deux. Voilà. C'est vrai qu'il était peut-être au bord de l'exclusion. Donc, il a préféré éviter le carton rouge pour la dernière...
Par contre, il faudra lui expliquer qu'un championnat de France... Il y a des tacles qui se font en Italie ou en Angleterre qu'en France, il vaut mieux éviter. Mais tu ne l'as pas payé.
Encore qu'il n'a pas joué en Angleterre, mais bon, c'est vrai qu'il
est passé
par l'Espagne et l'Italie.
Il n'a plus qu'un an de contrat.
C'est ça, donc, il est parti sur 18 mois, autant
Faut un remplaçant à Balerdi, c'est un joueur d'expérience, c'est un Brésilien naturalisé italien qui a une bonne relance.
Qui peut jouer axial ou décalé sur un côté.
Voilà, c'est un peu un coup, quoi. Voilà, tu tentes.
On sait que ça a été la première recrue hivernale de l'OM en décembre.
En fin décembre. Si tu arrives à recruter deux centraux, parce qu'il semblerait que Cornelius soit plutôt dans une logique de départ...
Je me permettrai de l'espérer fortement.
C'est vrai que pour les joueurs canadiens, ils n'ont pas trop la cote. Il y a eu Ismaël Koné en première partie de saison qui a quitté le navire olympien en décembre. Il y a son compatriote Derek Cornelius qui n'a pas... énormément brillé, que ce soit en première ou en deuxième partie de saison.
Du coup, Lille n'est pas prêt à nous, nous laisser leur avant-centre miraculeux canadien.
Comment on appelle ça, Cornelius, c'est un garçon qui manque de vitesse, qui est très lent. Et donc, pour le système de Zerbi qui presse haut, il te faut des garçons rapides.
Voilà. Mais c'est vrai que le coéquipier de Derek Cornelius et Ismaël Koné en sélection canadienne, Jonathan David, qui a annoncé son départ officiel du LOSC, ce serait un profil très, très intéressant pour Roberto De Zerbi.
Justement, j'ai voulu
dans
vous
le système.
Avec ça,
Après,
sur l'avant-centre rêvé.
Après, on sait qu'on a parlé de David du côté de l'Angleterre et de Londres à Chelsea l'année dernière.
Il ne faut pas que lui qu'il soit prêt à
on parle de Naples. On parle de Naples. Lui aurait été intéressé par Barcelone. Ouais. Et
mais je pense pas qu'il ait forcément l'envie de pouvoir de vouloir continuer en Ligue 1. Hein.
Oui. Donc je suis assez d'accord.
Je pense que la piste de l'OM, on peut l'écarter assez rapidement là.
Sur ce qui se sait. Mmh.
Très rapidement.
Il demanderait une prime à la signature importante et un salaire anglais. Donc,
c'est hors de portée pour les dirigeants.
C'est plus ou moins hors de portée.
Des ambitions légitimes, mais qu'il ne trouvera pas dans le championnat de France, à part le Paris Saint-Germain, où il n'ira pas.
Et Paris Saint-Germain, c'est pas la piste voulue.
Non.
Voilà, donc on verra. Ça va être important parce que, et à mon avis, d'après ce qu'on peut comprendre en lisant entre les lignes, tu feras ce que tu peux, tu auras des cibles, y compris un cible en haut, parce que il faut tenter. Hein. Il se dit qu'il a tenté le roi Sané, c'est voilà. Mais tu n'as pas les moyens de te payer un joueur comme ça.
Le roi Sané, mais international allemand, qui évolue du côté du Bayern de Munich,
Qui est en fin de contrat. Hein.
Voilà.
Mais
va probablement quitter le club bavarois avec lequel il a été champion d'Allemagne cette saison.
Champion d'Europe
sur la fin d'un cycle.
Et disons que tu tentes. Rabiot, tu l'as eu en tentant.
Patrick, armons-nous de patience avant de nous armer de talent.
Voilà. On sait que cette intersaison sera mouvementée du côté de l'OM. Ça sera chaud de tous les côtés, dans le sens des départs comme des arrivées. Donc, on verra ça. On suivra ça de plus près. On se retrouve donc en septembre pour l'Olympique de Marseille. Donc, ça sera un retour sur les pelouses françaises dès la mi-août. Voilà, le week-end du 15 août avec la première journée de Ligue 1. D'ici là, on suivra de près l'actualité Mercato avec beaucoup d'attention et on espère tous retrouver un Olympique de Marseille encore plus fort sur les pelouses de Ligue 1 et européenne pour cette saison à venir 2025-2026. Voilà, on va se quitter.
Cela va de soi.
Voilà, je vous dis bonne fin d'après-midi sur Fréquence Mistral et on se retrouve en septembre. Voilà, on vous souhaite un bel été à tous et on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures au mois de septembre.
Avant septembre, on sera toujours avec vous.
Allez.
On ne vous lâche pas.
Bye bye à tous et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.